C'est mon avant-dernière émission. Quand la fin approche, je suis toujours prise de nostalgie et ça peut m'entraîner très loin. Et chez moi, ça revient à parler de ma famille. C'est comme ça. J'aimerais aujourd'hui rendre hommage à une femme, celle qui m'a élevée, au sens propre comme au sens figuré, ma mère. Ben Chérif Kadour Boudadi, née Boubekeur, fille de Harki, arrivée en France en 1962. Ma mère n'est pas universitaire, elle n'occupe pas un poste à responsabilité, elle n'a pas eu non plus la chance de suivre une scolarité poussée. Ma mère est, selon la formule consacrée, mère au foyer. Je n'aime pas trop cette façon de la désigner. Cette formule la prive de son individualité et la cantonne à être définie en fonction des autres, en l'occurrence ses enfants. Être mère au foyer ne lui a pas été imposé, c'est un choix relatif, un choix d'une femme de sa condition, d'une autre génération et d'une autre culture aussi. Peut-être finalement un choix déterminé. Bref, en tout cas, elle voulait être là quand on rentrait de l'école, ma sœur et moi, veiller à ce que notre scolarité se déroule sans accroc. Quand on vient d'ailleurs, qu'on porte mon patronyme, on redoute sans doute un peu plus l'avenir pour ses enfants. On redoute le racisme, la discrimination à l'embauche, toute forme de rejet. Et quand on a deux filles, les inquiétudes se superposent. Ma mère ne voulait pas, pour nous, qu'on devienne comme elle. C'est dur à dire, mais elle l'a dit souvent. Elle ne voulait pas faire de nous une femme quelque part condamnée à s'occuper sans cesse des autres, même si le plaisir n'est pas exclu. Elle voulait qu'on se réalise par nous-mêmes, qu'on apprenne à vivre pour nous-mêmes, qu'on ne dépende pas de quelqu'un, surtout pas d'un homme, qu'on mène la vie qu'on aura décidé de vivre et surtout elle m'a appris la plus belle des notions, l'estime de soi. Tout cela, ce sont de beaux discours, me diriez-vous. Dans les faits, cela pourra vous faire rire, mais ma mère nous interdisait l'accès à la cuisine en dehors des heures de repas. Il était strictement interdit d'apprendre à faire à manger. Quand je demandais pourquoi, elle répondait « Va plutôt lire, faire la cuisine, c'est une activité de femme au foyer et tu ne seras pas cela ». Un jour, je la voyais tricoter, j'ai voulu apprendre et là, encore, un refus et la même réponse. Vous l'avez compris, je ne suis pas une fée du logis, même si je me suis découverte une passion pour le ménage sur le tard. Un jour, elle nous a même fait promettre de ne jamais, au grand jamais, demander un centime à un homme. On n'a pas besoin d'un homme pour vivre, éventuellement, on en a envie. C'est donc avec cet état d'esprit que je suis arrivée sur le marché de l'amour. Imaginez une sorte de tourbillon qui fait un peu peur aux hommes et qui ne cherche pas à leur plaire. Aujourd'hui, je suis une femme qui vieillit, je ne suis pas mère, je ne suis pas épouse. Ça sonne comme un constat d'échec. Pas du tout. Ça sonne comme une vie choisie. Et ça, je sais à qui je le dois.
France Inter. Duh. Le Mac de l'été. Leïla Kadour.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac de l'été, votre rendez-vous avec la culture sur cette antenne du lundi au vendredi, histoire de vous parler de tout ce qui nous met en joie. Aujourd'hui, une essayiste que je rêvais de rencontrer depuis très longtemps. Quand on prononce son nom, cela a l'effet sur moi d'une incantation magique. Bonjour Mona Chollet.
Bonjour.
Je ne peux que recommander la lecture non pas d'un, mais de tous vos livres tellement ils sont essentiels. Le dernier en date, Sorcière, la puissance invaincue des femmes aux éditions La Découverte, est un essai remarquable qui se lit comme un roman, pétri de références, qui donne envie d'être chez soi pour faire beaucoup d'autres lectures avec autant d'enthousiasme. Dans Sorcière, vous retracez, Mona Chollet, l'histoire des chasses aux sorcières, qui n'est rien d'autre qu'un crime de masse misogyne, il faut dire les choses assez clairement. Ce thème de départ est aussi l'occasion de penser les femmes d'aujourd'hui, et c'est ce qui est très passionnant, qui est vraiment très instructif. C'est quoi une sorcière aujourd'hui, d'après vous ?
Je crois que c'est malgré tout toujours. Je suis pas historienne, donc c'était pas vraiment mon but. C'était vraiment de parler des femmes d'aujourd'hui, mais peut-être de montrer comment cette histoire que souvent on connaît pas bien a façonné notre vision de ce que doit être une femme, de ce que ne doit pas être une femme jusqu'à aujourd'hui. Et quand on se penche sur cette histoire, on s'aperçoit que. Évidemment, a priori, n'importe quelle femme à l'époque pouvait être accusée de sorcellerie et pourchassée. Ça pouvait être simplement un voisin à qui votre tête ne revenait pas ou à qui vous aviez parlé de travers. Mais avec le recul, on s'aperçoit qu'il y avait quand même un certain profil de femmes qui était spécialement visé. Et c'était, je crois qu'on peut dire que c'était les femmes qui n'étaient pas utiles, entre oui. guillemets, c'est-à-dire qui existaient indépendamment du service d'un homme, du service d'enfant, parce qu'il y avait une sorte d'anxiété sur la natalité très forte à l'époque. Donc, les avorteuses étaient poursuivies, les femmes, les électrons libres, en fait, les femmes célibataires, les veuves, toutes celles, et les vieilles femmes aussi, qui en quelque sorte étaient aussi inutiles, puisqu'elles pouvaient plus porter d'enfants, puisqu'elles n'étaient plus considérées comme agréables à regarder.
Qu'elles avaient plus de rôle dans la société, entre guillemets.
Oui, et puis en plus souvent elles étaient aussi veuves, c'est-à-dire c'est des catégories qui se recoupent et elles pouvaient avoir la langue un peu mieux pendue que dans leur jeunesse. Enfin, elles pouvaient avoir acquis un certain aplomb qu'on n'a pas forcément plus jeune. Et je crois qu'aujourd'hui, mine de rien, même si on se pense très émancipé, je crois qu'on est toujours très marqué par ces figures. C'est-à-dire qu'on a, en fait, on a toujours des représentations très négatives. De la femme sans enfant, de la vieille femme, de la femme célibataire.
La vieille fille.
Oui, donc c'était en fait l'occasion de s'attaquer à tous ces stéréotypes qui souvent traînent dans nos têtes sans qu'on s'en aperçoive même.
C'est une question que j'aime bien poser aux femmes que je rencontre, justement. J'ai parlé dans l'édito de cette émission de la façon dont j'ai été aussi modelée par la vision d'une mère. Et vous ? Comment vous avez été modelée? Alors là, je vous pose la question comme ça à chaud, c'est sans doute pas simple. Moi, j'ai eu le temps de réfléchir et d'écrire ce texte ce matin. Ouais. Qu'est-ce que vous gardez de ce qu'on vous a aussi transmis dans le référent femme, de ce qu'on doit être ou pas être, la liberté qu'on nous laisse?
Oui, c'est une bonne question. Je me rends compte de plus en plus que probablement mon histoire familiale m'a beaucoup marquée. Il se trouve que j'ai une mère égyptienne qui a quitté l'Égypte quand elle avait 22 ans et c'était assez largement, je crois qu'elle n'avait pas vraiment théorisé tout ça en fait, mais je crois que c'était assez largement pour se faire une vie beaucoup plus libre,
enfin s'émanciper.
Oui, elle était poursuivie par sa propre mère qui voulait absolument, qui était mortifiée parce qu'à 22 ans elle n'était pas mariée, donc. je crois qu'elle a vraiment fait preuve de beaucoup de volonté et de courage en fait, puisque elle est partie toute seule. Elle a fait vraiment le grand saut pour partir en Europe, en Suisse. Donc, mine de rien, même si curieusement on n'en a jamais tellement parlé, mais j'ai l'impression que ça m'a quand même beaucoup marqué. Ouais.
C'est pour ça que je suis d'autant plus ravie de vous rencontrer, parce que quand on lit un auteur, là j'ai lu tout votre travail, la façon dont vous décortiquez les notions et vous donnez à penser, parce que c'est aussi ça, je trouve, le côté fantastique de Sorcière et des autres livres. Et je me dis, mais qui est cette femme qui pense ça? D'où vient-elle? Quelle est son histoire aussi par rapport à ça? C'est toujours intéressant de savoir d'où on parle.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, en fait, je me rends compte que je suis obsédée un peu par ça, c'est-à-dire pas... ça me fascine toujours, les femmes qui s'émancipent, qui vont là où on les attend pas, là où on veut pas forcément d'elles, qui échappent un peu au destin très attendu et très conformiste. Ouais.
Moi, la dernière fois, ça remonte plus loin.
Pour commencer, Mona Chollet, cette émission, on fait les choses à l'envers avec un questionnaire la dernière fois. La dernière fois que vous avez lu dans un livre des mots réconfortants qui ont répondu à une de vos interrogations.
Bonne question. J'ai relu récemment, j'adore, une écrivaine américaine qui s'appelle Elizabeth Gilbert. Qui en fait est surtout connue pour un livre qui s'appelle Mange, Prie, Aime, qui a été adapté en blockbuster hollywoodien et qui est classé dans la chick lit complètement à tort à mon avis. Et j'ai relu récemment un livre qu'elle a écrit sur la créativité qui s'appelle Comme par magie, et qui est vraiment un livre extrêmement beau, qui parle de créativité, de son propre cas d'écrivaine, mais de la créativité chez tout le monde en fait.
La dernière fois que vous avez été agacée d'entendre un discours faussement féministe.
Oula.
C'est souvent ?
Oui, ça arrive souvent, ouais. Non, je suis agacée chaque fois que j'ai l'impression qu'on considère que les femmes soumises, c'est les autres, que c'est très loin, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, alors que... j'ai l'impression que malgré qu'en fait c'est beaucoup plus, c'est présent en nous, c'est présent autour de nous, et j'aime pas du tout ces tentatives en fait de rejeter ça sur les autres.
Ouais. Voilà. La dernière fois que vous avez lu un magazine féminin, vous en parlez justement dans la préface de Femme sur papier glacé d'Anne-Marie Lugan d'Ardinia aux éditions La Découverte, que je recommande aussi.
Ça devait être. Oh, je pense que c'était il y a quelques jours. Je lis toujours la presse féminine assez régulièrement.
Et quel regard vous portez sur la presse féminine?
Je crois que c'est un regard très ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a une fascination depuis très longtemps, en fait, depuis que je suis, enfin, j'ai commencé à la lire quand j'étais adolescente et j'étais fascinée. En même temps, il y avait tellement de choses que je trouvais problématiques et qui me révoltaient. Je crois que c'est une presse que j'adore détester et que je déteste adorer probablement. Je sais pas.
Et enfin, la dernière fois qu'on vous a demandé pourquoi vous n'avez pas eu d'enfant, est-ce que c'est fréquent ces questions?
Non, en fait, mine de rien, ça...
Moi, j'ai l'impression que c'est fréquent, mais...
Oui, c'est vrai, mais pas tant que ça. Peut-être que... Non, ça fait assez longtemps. Je crois que quand je ressens une pression, c'est quelque chose d'assez, de plutôt diffus, en fait. C'est-à-dire, c'est plutôt de voir les célébrités avec leur ventre rond en couverture des magazines et cette espèce d'omniprésence de ces images avec toujours le mot... épanouies ou comblées quelque part, même si elles ont des cernes de 3 kilomètres, oui. on écrit quand même toujours dans la légende de la photo qu'elles sont comblées et épanouies.
La magie de la maternité.
Oui, je crois que... Mais directement, non, j'ai de la chance, on me le reproche pas, en fait.
Mona Chollet dans le Mac de l'été, j'en reviens toujours pas. Et cet essai à lire, à offrir d'urgence, quand vous êtes en mal de mots, de réponses, de pistes de réflexion, Sorcière, la puissance invaincue des femmes aux éditions La Découverte, La chasse aux sorcières d'hier et la misogynie d'aujourd'hui, le pont est fait entre ces deux périodes. Les sorcières font très tôt leur apparition dans notre vie, finalement, quand on s'interroge. Personnellement, c'était la sorcière de la rue Mouffetard. Ouais. Et vous?
Ah, moi, c'était la sorcière dont j'ai parlé en ouverture du livre, qui a été vraiment pour moi la clé, le déclic pour commencer à écrire ce livre, qui est un personnage qui s'appelle Floppy le Redoux, qui est une sorcière positive, en fait, une vieille femme sage dans un conte nordique.
Le château
des enfants volés. Oui. Et je pense que c'est la première fois que j'ai découvert qu'une sorcière pouvait être un personnage positif, et c'est une vieille femme qui vit dans une maison perchée sur une colline en compagnie d'un corbeau à qui elle parle. J'ai vraiment tout aimé dans ce personnage, c'est-à-dire qu'à la fois c'est quelqu'un qui vit en retrait de la communauté et en même temps qui se sent très concernée par le destin des villageois qui vivent à côté d'elle, parce qu'elle a un métier à tisser et elle voit apparaître le destin des villageois dans les motifs qu'elle tisse, en fait. Ce que je trouve, enfin, une image vraiment très belle, je trouve. Et voilà.
Il y a pas mal de sorcières sur le tard qui sont apparues, notamment à travers les séries télévisées. Vous évoquez ça aussi dans Sorcières, oui. Que ce soit Charmed ou Ma sorcière bien-aimée, par exemple.
Oui,
il y avait
vrai.
Aussi cet
ouais.
aspect-là positif. Dans Le Magicien d'Oz, il y a une sorcière positive.
Oui.
Donc on a encore des figures, mais finalement, les sorcières, elles sont là encore plus tôt dans les récits fondateurs. Je pensais à ça en préparant l'émission, dans l'Odyssée. Que ce soit Circé, la première magicienne, Calypso qui retient Ulysse, oui. Les sirènes qui font perdre la tête à celui qui aura le malheur d'entendre leur chant. On est déjà là avec la femme comme bouc émissaire qui retient, qui contraint, qui empêche. Et finalement, c'est une femme très puissante puisqu'elle a des pouvoirs. Et ça nous amène au témoignage de Xavier Gauthier, fondatrice de la revue Sorcière. En 75, elle est interviewée par Lorraine Bastide.
Pendant 1000 ans, l'unique médecin du peuple fut la sorcière. Donc la sorcière, c'était une femme qui soignait, qui guérissait si possible les hommes et les femmes, mais particulièrement elle s'occupait des femmes qui accouchaient, c'était une sage-femme, une matrone, et elle s'occupait des femmes qui ne voulaient pas poursuivre leur grossesse, donc elle faisait les avortements. Et ça, c'était vraiment intéressant, c'est-à-dire, avec la sorcière, les femmes avait la liberté de leur corps.
Voilà l'aspect de la sorcière qui est questionnée, qui est interrogée par Xavier Gauthier, qui avait donc cofondé cette revue dans les années 75. Vous l'expliquez dans le livre, c'est que la sorcière, elle représente aussi une menace pour l'homme.
Oui.
Si on la réhabilite un petit peu.
Oui, c'est sûr. En fait, je pense que c'est simplement... C'est une période où, enfin, de tout temps, les femmes qui se soumettent pas ont représenté une menace. Mais là, effectivement, les chasses aux sorcières, c'est un moment de passage à l'acte massif, en fait. C'est-à-dire, en fait, toutes les têtes qui dépassent sont éliminées. Donc, Ce qui pose plein de questions, parce qu'il n'y a pas seulement les victimes directes qui sont déjà, enfin pour lesquelles c'est déjà absolument terrible, c'est-à-dire c'est un supplice atroce qui a concerné des dizaines de milliers de femmes pendant une très longue période en fait.
À la Renaissance d'ailleurs, vous l'expliquez, c'est pas tant le Moyen-Âge.
Oui, oui, ouais, non, c'est pas du tout le Moyen-Âge en fait, enfin très peu. Et donc il y avait à la fois ce châtiment direct et puis il y avait aussi l'effet le disciplinaire en fait, c'est-à-dire le message envoyé à l'ensemble des femmes pour leur montrer ce qui risquait de leur arriver si elles se tenaient pas à carreau. Donc on peut penser que ça a complètement modelé le comportement féminin. Enfin, une historienne disait c'est l'époque où plus que jamais les femmes disaient à leurs filles fais attention.
Oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la représentation même de la sorcière, dans l'iconographie, ça aussi, vous décortiquez cet aspect-là, c'est que on peut établir un parallèle très troublant avec la représentation des juifs.
Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, oui, il y a énormément de parallèles entre les chasses aux sorcières et l'antisémitisme. En fait, entre l'antisémitisme et la misogynie, pour, parce que
le nez crochu.
Le nez crochu, ouais. Et il y a même des cas où on représentait des sorcières. Enfin, notamment, il y a un dessin fait par un greffier lors d'un procès en sorcellerie. Comme il s'ennuyait, il avait griffonné sur du papier. Et c'était, il avait dessiné l'accusé avec la coiffure traditionnelle juive, en fait. Donc, il y avait aussi cette espèce de légende folle en Allemagne, je crois, selon laquelle on disait que les hommes juifs avaient leurs règles parce qu'ils étaient circoncis. Donc, ouais, c'est...
Le parallèle est troublant,
oui,
en fait.
Ouais. Bah ouais, dans les deux cas, c'est des haines qui ont produit, je pense, des crimes de masse à des moments différents de l'histoire, à des échelles et des natures différentes, évidemment. Mais oui, il y a énormément de parallèles possibles. Ouais.
Mona Chollet, dans le Mac de l'été, on écoute tout de suite le son du jour sur France Inter. C'est Karen O'Danger Mouse. Woman, tant qu'à faire.
You
Vous êtes bien sur France Inter dans le Mac de l'été avec Mona Chollet. Mais que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde de la culture? Eh bien, il suffit de demander le programme.
Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Et nous, on fonce devant la télé ce soir pour une séance de rattrapage des meilleurs conseils de Jean-Claude Duss avant de s'essayer à la drague cet été sur les plages. TF1 rediffuse Les Bronzés à 21h05, le premier volet de la mythique trilogie sortie en 78 et signée Patrice Lecomte. L'occasion de pousser le canapé et de sortir le transat aux côtés de Gérard Jugnot, Josiane Balasco et Christian Clavier, entre autres. Une belle bande qui nous embarque en Côte d'Ivoire au Club Med d'Abidjan. Michel Blanc, le slip bourré d'algues, importé exprès et par avion de Bretagne pour tourner la séquence qu'on a tous en tête.
Dora, ma bouche, allez Dora.
Ok.
C'est parti.
Dernier jour pour partir à l'aventure au Centre Pompidou et découvrir l'exposition Doramar. Jusqu'au 29 juillet, le musée propose la plus grande rétrospective jamais consacrée en France à l'artiste, peintre et photographe. C'est elle qui avait notamment photographié tout le processus de création de Guernica de Picasso. Mais cette fois-ci, pas question de cantonner son parcours à son histoire avec le peintre espagnol. Photos de rue, montage surréaliste, peinture, engagement politique, l'exposition met à l'honneur l'œuvre d'une intellectuelle libre et indépendante qui a su s'imposer dans le milieu artistique parisien au début du XXe siècle. L'acteur Rutger Hauer est mort hier, en 2019 donc, l'année même où devait mourir son personnage de Roy Batty. C'était l'effroyable androïde meurtrier qu'il incarnait dans le film de science-fiction Blade Runner, sorti en 82. Originaire des Pays-Bas, le méchant préféré d'Hollywood était malade et s'est éteint à l'âge de 75 ans. Il avait aussi un autre double, c'est le réalisateur Paul Verhoeven, qui en 73 lui avait offert son premier grand rôle avec le monument du cinéma néerlandais Turkish Delight. Il a déclaré qu'il avait perdu hier son alter ego.
Leïla Kadour, le Mac de l'été sur France Inter.
Mona Chollet dans le Mac de l'été pour Sorcière, la puissance invaincue des femmes aux éditions La Découverte. Un essai qui a cartonné, Mona Chollet, qui a rencontré un très 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 large public. Vous avez été étonnée de ça?
Oui. Oui, oui, j'étais vraiment étonnée, ça m'a un peu... c'est étrange d'ailleurs parce que je pense que j'avais écrit avec en ayant en tête un public beaucoup plus restreint, ouais. Donc c'est un peu intimidant, mais évidemment ça fait extrêmement plaisir. Ouais.
Ça veut dire qu'il y a un lectorat qui est à la recherche aussi d'éléments de réponse, parce que ce que peut-être je n'ai pas suffisamment fait sentir depuis le début de cette émission, c'est que ce livre est pétri de références. À chaque fois quand vous interrogez une notion, vous renvoyez à des spécialistes, vous le dites, vous n'êtes pas historienne, vous avez aggloméré toute cette pensée, il y a la vôtre aussi bien entendu, mais vous n'essayez jamais de vous approprier la pensée d'une autre. Donc il y a un travail vraiment documenté qui est assez exceptionnel. Et d'ailleurs, dans ce travail documentaire-là, la pensée est beaucoup tournée vers l'étranger. Oui. Les références sont souvent américaines. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus attractif intellectuellement sur le féminisme aujourd'hui, les États-Unis?
Je sais pas très bien comment. Non, il y a aussi beaucoup d'autrices françaises que je lis avec beaucoup d'intérêt, mais je complète beaucoup avec des féministes américaines qui sont souvent considérées comme une sorte d'épouvantail terrifiant en France, mais qui en fait sont tout à fait fréquentables. Oui, il y a une production extrêmement riche, et en fait, il n'y a pas toujours beaucoup de choses qui sont traduites.
Oui, c'est vrai.
Donc, je me suis habituée à lire en anglais parce que c'était un peu le seul moyen souvent d'accéder à des autrices dont je trouvais pas l'équivalent ailleurs, donc ouais.
Et puis ça permet aussi de suivre l'évolution d'une autre société que la nôtre, oui. Justement à travers l'histoire des États-Unis. Et puis ce qui se passe en ce moment quand on voit le mouvement Witch, qui est capable de se mobiliser de façon bien sérieuse. Là aussi, ça nous renseigne sur d'autres pratiques et nous éclaire aussi sur éventuellement des possibilités dans la marche à suivre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce mouvement Witch?
C'est un mouvement, je sais pas si on peut parler d'un seul mouvement, je crois que c'est plutôt toute une série de groupes très éclatés, mais qui se réclament de la figure de la sorcière aujourd'hui, qui en fait pratique une sorte de mélange de de pratiques un peu magiques et de mobilisation politique. Enfin, oui, c'est vraiment un mélange peut-être un peu étrange pour la France. On n'a pas tellement l'habitude. Enfin, en général, le spirituel et le politique sont des choses bien distinctes qui se fréquentent pas. Et certains ont ressuscité un groupe qui était apparu en 1968 à New York, qui s'appelait déjà le mouvement Witch, qui est pour
l'acronyme.
Oui, dont l'acronyme voulait dire conspiration féministe venue de l'enfer, en résumé. et en fait, c'était à l'époque, c'était un mouvement un peu spontané. Je crois qu'elles avaient même pas, les participantes avaient même pas tellement creusé la référence de la sorcière. C'était ça leur était venu comme ça. Elles s'étaient déguisées, elles étaient allées faire une sorte de sabbat à Wall Street le jour de Halloween. On dit que l'indice de la bourse avait chuté ce jour-là. Quand même. Donc,
à cause des sorcières, du pouvoir de la sorcière, parce que c'est aussi ce que vous mettez en valeur. C'est tout d'un coup, plutôt que de se considérer comme des victimes, et si on prenait plutôt la vision opposée, et se dire qu'on a quelque chose que les hommes n'auront sans doute pas. Et voilà pourquoi je me suis posé pas mal de questions, moi, en lisant le livre, sur la notion même de féminisme, qui est devenue une notion parfois un peu galvaudée, parce que chacun peut se l'approprier et donner sa propre définition, ce qui fait que souvent, quand il s'agit de militer un petit peu, on peut être affaibli par la position d'une telle ou d'une telle qui nous correspond pas complètement. C'est quoi votre vision à vous du féminisme ? Je sais que c'est une question compliquée.
Ah, oui, je crois que je l'ai jamais tellement théorisée, en fait. Ouais. Non, je suis pas sûre que je fonctionne tellement avec des définitions a priori. C'est-à-dire que j'ai plutôt, je crois que ma manière de fonctionner, c'est plutôt de m'emparer d'un sujet à un moment parce que il me travaille, parce que j'ai besoin, parce que j'ai un besoin personnel en fait de l'explorer à fond, par plaisir, par inconfort aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, sorcière, c'était vraiment aussi pour ça, pour aller au bout de cette question de l'absence d'enfant, parce que moi j'ai jamais voulu d'enfant, donc. Ouais, il y avait cette question-là. L'indépendance aussi, parce que j'étais récemment séparée, donc je découvrais en fait la vie indépendante, et j'étais un peu démunie et désemparée face à cette situation nouvelle, face au statut de célibataire que je retrouvais en quelque sorte. Donc je m'en suis emparée vraiment sans du tout réfléchir en termes théoriques.
Ouais.
Et forcément, en cours de route, ça donne un livre féministe parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement.
Là, on ne peut pas y échapper.
Non.
Et c'est pour ça que vous êtes là à ce micro, même si je sais que l'exercice de la promotion, c'est pas complètement votre exercice préféré. Je suis votre blog aussi, Mona Chollet. Vous êtes cernée entre les réseaux sociaux, votre blog, vos écrits. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui m'échappe. mais c'est vrai que je me demande comment vous pouvez réagir quand, moi, quand j'entends parler de féminisme, souvent dans la bouche d'hommes politiques, généralement c'est quand il s'agit de pseudo-défendre les femmes voilées, alors que quand il s'agit d'égalité salariale, il n'y a plus personne sur les plateaux pour venir défendre l'égalité entre les hommes et les femmes.
Ah oui, bien sûr.
Donc c'est aussi comment on s'empare du féminisme et ce qu'on en fait, et comment cette notion, personne n'est détenteur de la vérité, mais quel courant de pensée on peut essayer de préserver justement pour militer et faire avancer les choses. Comment est-ce que vous réfléchissez à ça?
C'est très, c'est tellement divers comme mouvement en fait.
Et c'est ça.
Il y a tellement de, effectivement, il y a les sujets qui fâchent. En résumé, le voile et la prostitution, pour aller très vite.
C'est ça. Ouais.
Oui, il y a énormément de sensibilités différentes. C'est vrai que c'est toujours un peu exaspérant de se faire opposer des déclarations faites par d'autres féministes, parce qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes aussi féministe que vous l'êtes forcément de la même manière, que vous endossez tout ce que peuvent dire les autres. Donc c'est toujours un peu artificiel, en fait, de vouloir chercher un discours unifié. Après, effectivement, l'instrumentalisation du féminisme à des fins racistes aujourd'hui, c'est vraiment une réalité que je trouve très préoccupante. Ça, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Mais j'ai l'impression que le mouvement féministe général dans toute sa diversité a pris énormément de force ces dernières années et que ces positions là sont je crois qu'il y a une grande lucidité en fait sur l'instrumentalisation éventuelle. Je crois qu'il y a finalement, même sur la question du voile, j'ai l'impression que il y a une espèce de solidarité aujourd'hui pour dire que il n'y a pas vraiment de raison de s'en prendre aux femmes qui choisissent de le porter, que c'est pas du tout la même chose de le porter en France ou en Iran.
Ouais.
être obligé de se dévoiler, c'est pas mieux qu'être obligé de se voiler. Enfin voilà,
y a une forme de sororité qui s'installe.
Oui, je crois. Ouais, ouais, ouais. Notamment chez les jeunes femmes, j'ai l'impression, chez les jeunes féministes, j'ai pas l'impression que c'est un sujet qui fait énormément débat en fait.
C'est plutôt pour les plus anciennes peut-être qui voient ça d'un mauvais œil, au vu du combat peut-être qu'elles ont été amenées à mener par le passé.
Oui, oui, probablement. Et puis je pense qu'on est marqué par des événements différents. Je pense qu'elles ont peut-être été marquée par la révolution iranienne, par la guerre civile en Algérie, mais qui sont pas des modèles pertinents pour parler de la France en fait. C'est-à-dire, voilà, une femme musulmane en France, c'est pas la même chose qu'une femme musulmane en Algérie ou en Iran. Donc, je crois qu'il y a cette erreur en fait d'essentialiser et de réduire énormément des femmes qui sont extrêmement diverses en fait, qui sont des individus qui
C'est ça le féminisme des femmes différentes.
Oui,
déjà rappeler ça peut-être en prérequis. Il y a une femme aussi qui traverse un peu votre parcours dont vous parlez souvent dans les interviews. On va en parler juste après avec cette chanson Bovary de Clara Luciani.
Je ne sais pas si je suis encore vivante. Sinon, quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous. Je n'ai ni chaud ni froid. Que j'assassine. Notre monde était rien qu'un léger malentendu qu'on a pris au sérieux. Fallait-il en arriver là? J'ai toujours eu pour nous des projets plus heureux.
Clara Luciani sur France Inter avec Bovary, Mona Chollet, Bovary, Madame Bovary apparaît dans la préface de Femme sur papier glacé. Alors vous inquiétez pas, on va mettre toutes les références sur le site de France Inter. Madame Bovary aussi dans La tyrannie de la réalité qui vient de ressortir en poche, qui est un texte de 2004. Pourquoi Madame Bovary?
À l'époque, elle m'intéressait vraiment pour plein de raisons différentes. Enfin, c'est un personnage tellement riche, mais j'avais l'impression d'y voir une sorte de personnage sur lequel Flaubert avait en quelque sorte projeté des aspects de lui-même dont il avait honte, c'est-à-dire la tendance à la rêverie débridée en fait, et presque comme une manière de conjurer quelque chose en lui-même, c'est-à-dire et de projeter ça sur une figure féminine un peu ridicule. qui finit tragiquement parce qu'elle a trop rêvé, comme si. Et je pense que ça a fait beaucoup pour nous persuader que l'idée que l'imagination était dangereuse, qu'il fallait avoir les pieds sur terre, qu'il fallait être réaliste, etc. Qui était un peu tout l'objet de la tyrannie de la réalité tyrannie, à l'époque. Ouais. Oui, il y a peut-être un aspect, le fait qu'il en ait fait une figure féminine, c'est pas complètement anodin, c'est-à-dire c'est la femme exaltée, ridicule, en fait. Et j'avoue que j'ai une certaine tendresse pour elle, parce qu'après tout, c'est quand même plutôt bien de pas se satisfaire d'une vie triste et étriquée, donc ça mérite pas la mort.
Il est venu le temps de rembobiner Mona Chollet. Tous les jours, on fait revivre une voix qu'on a envie d'entendre pour faire réagir notre invité. Dans votre transistor, Mona Chollet, la voix chantée d'Anne Sylvestre et ce titre, Une sorcière comme les autres.
S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vraie. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. M'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain, et couverte de satin. Vous m'avez faite statue, et toujours je me suis tue.
Voilà pour cet extrait d'Anne Sylvestre, Une sorcière comme les autres, avec...
Oui, très belle chanson.
Ouais. Avec Anne Sylvestre, on peut aussi évoquer le corps de la femme aussi qui vieillit, la femme âgée, qui a aussi un aspect très important dans Sorcière, que vous questionnez, mais que vous questionnez déjà dans les livres précédents, quelque part, à travers la beauté aussi, à travers l'évolution du corps. Vous, en tant que femme, le fait d'avancer dans le temps, comment vous le vivez ?
Plutôt bien, enfin dans un mélange de je sais pas, un drôle de mélange de sérénité et d'anxiété quand même. Enfin, c'est tellement compliqué à démêler tout ça. J'ai l'impression, c'est vrai, en fait j'ai voulu écrire là-dessus parce que j'avais l'impression que dans Beauté fatale, qui était consacré au canon de beauté, à l'obligation de la beauté pour les femmes selon des critères en plus extrêmement stricts, j'avais pas assez traité cet aspect-là, en fait, c'est-à-dire la haine de la femme âgée, en fait, qui vraiment, là, pour le coup, vient en direct des images de sorcières hideuses, repoussantes, qu'on associe toujours à la mort, alors que, bon, je sais pas, quand vous voyez Clint Eastwood, vous pensez pas à la mort.
Non.
Enfin, voilà. Je pense qu'il y a vraiment une image de la vieillesse féminine qui est spécialement repoussante et...
Comme dans la poésie française, depuis...
Oui, absolument, oui. C'est pas du tout nouveau, évidemment.
Enfin, je suis allée exhumer tout à l'heure, quand vous serez bien vieille.
Oui.
Voilà, on retient la fin carpe diem, mais c'est vrai que si on s'intéresse aux premiers quatrains, c'est pas joyeux.
Non, pas du tout. Non. Ou Erasme aussi a écrit des choses abominables sur les vieilles femmes, enfin... C'est complètement banalisé dans notre culture, en fait, et je pense que c'est quelque chose qui terrifie énormément les femmes, à juste titre. Il y a de quoi être un peu effrayée, enfin, mais et en même temps c'est complètement insoluble, parce que si vous faites des efforts pour garder une apparence jeune mais que ça se voit trop, on se moque de vous aussi, donc bref,
c'est un combat perdu.
Non, il y a pas de bonne solution, donc bon, malgré tout, c'est quand même une chance de vieillir, donc c'est toujours mieux de pas mourir jeune. Donc
oui, on peut avoir un rapport un peu plus doucereux avec l'âge.
Oui, absolument. Ouais, c'est vrai. J'ai été très frappée parce que j'écoutais un podcast fait par une jeune femme qui s'appelle Maëlle Sigono et qui parle de son comment elle vit le cancer par rapport à la féminité. Et elle racontait qu'elle avait suivi un atelier beauté pour les femmes atteintes d'un cancer, où on leur expliquait comment faire pour surtout ne pas que les traitements ne fassent pas vieillir leur peau. Et elle disait à quel point c'était frappant et obscène, finalement, de dire ça à des femmes dont le seul désir à ce moment-là, c'était de vieillir, justement. C'est-à-dire, c'était de vaincre la maladie et de rester en vie.
Dans le Mac de l'été, Mona Chollet, tous les jours, on pousse un peu les murs pour faire une petite place à la poésie. Tous les jours, dans cette émission, une grande voix de France Inter nous lit un texte.
Bonsoir, petite Evie. Bonsoir comme autrefois. Toi qui, depuis de si longs jours déjà, demeures loin de moi. Bonsoir, dès que je passe à côté de ton banc dans le parc étranger où nul ne va s'asseoir, où personne dans le noir ne dresse les oreilles, quand le silence sur nous s'étend dans les buissons, et que très lentement, avec la nuit qui tombe, s'éteint dans la pénombre le murmure de mes mots, entre plaisir et peine, à travers deuil et joie, bonsoir, petite Evie, bonsoir et à bientôt, comme alors, mon Evie serré l'un contre l'autre, à deux, sur ce vieux banc.
Vous l'avez reconnu, c'est la fabuleuse voix de Jean Lebrun que vous retrouvez dès la rentrée tous les jours à 14h30. Merci beaucoup Jean, dites-nous pourquoi vous avez choisi ce texte.
Alors c'est un texte d'un poète juif alsacien, enfin je le définis comme il se définit lui-même, hein, qui s'appelle Claude Vigée, qui a longtemps vécu à Jérusalem où il était professeur de littérature française. Et qui a dû rentrer à Paris. Il s'est installé non loin de la maison de la radio, rue des Marronniers, pour vivre plus confortablement avec sa femme Evie, qui était très malade. Il disait que rue des Marronniers, il y avait les trois Claude, Claude Vigée, il savait qu'il n'était pas le plus connu, Madame Claude, et Claude Lévi-Strauss. Et donc, ce poème date de 2009, c'est peu de temps après la mort d'Evie, et il allait régulièrement sur un banc. Et il se trouve que sur le même banc, quand mon compagnon était en train de mourir dans les dernières semaines de sa vie, nous nous sommes souvent rendus péniblement, lentement, nous asseyons à cet endroit-là. Alors les premiers temps des derniers temps, on comptait les vieux messieurs décorés qui portaient la Légion d'honneur en rosette ou en ruban sur leur costume, et puis après on ne disait plus rien. Et quand j'ai vu ce poème de 2009 de Claude Vigée, que j'aime bien, que je connais un peu, que je ne vois pas assez souvent, j'ai reconnu le banc. Et ça m'a beaucoup ému, bien sûr, ce banc. Mais en même temps, il n'y a pas besoin de raconter tout ça, parce que Claude Vigée raconte une rencontre qu'il a faite avec Saint John Perse à ses débuts de poète. Et alors Saint John Perse lui disait, bon alors ça y est, il tient votre poème, vous n'avez plus besoin d'échafaudage, vous n'avez pas besoin de raconter ce qui a provoqué son écriture, et il n'y a pas besoin non plus nécessairement de raconter l'écho que le poème provoque chez un autre que l'auteur. Enfin, je veux dire que en même temps, le fait de voir de temps en temps ce banc, souvent je le contourne, me fait penser à Claude Vigée. Je sais que Claude Vigée est vieux, qu'il ne sort plus beaucoup, mais il m'est toujours apparu comme un homme qui enseignait l'allégresse foncière de la vie. Alors même si la lecture de ce poème m'émeut, en même temps elle me réjouit.
Et je voulais remercier Jean Lebrun pour ce texte, pour ses confidences, pour sa tendresse aussi. Mona Chollet, la poésie, quelle place occupe-t-elle dans votre vie? Est-ce que vous lisez de la poésie? Est-ce que c'est une évasion?
J'en lis pas beaucoup et je regrette, hein, parce que chaque fois que je tombe sur un beau poème, je me dis que je devrais en lire plus. Non, récemment j'ai découvert Rupi Kaur, je crois, je sais pas comment on prononce exactement, qui est une poétesse indienne féministe.
Oui, désolée, encore.
Ouais, c'est bon. Et c'est vrai qu'en la lisant, je me disais, ah waouh, je devrais en lire plus.
En lire davantage. Je ne sais pas quel genre de voyageuse vous êtes. Dans le Mac de l'été, pas besoin de bouger. C'est les voyages immobiles qu'on aime beaucoup. Et c'est Agnès Obel aujourd'hui qui nous entraîne au Danemark avec Riverside.
However, wash all the dirt on the riverside. Go to the water so very near, the river will be yours and ease. I'll walk to the borders on my own, fall in the water just like a stone, chill to the marrow.
On va se quitter sur cette musique, Mona Chollet. À vous, le mot de la fin. Que vous souhaitez dans les semaines qui viennent? À quand le prochain livre?
Ah, l'inspiration.
C'est vrai, vous avez
oui,
déjà
j'attends toujours le déclic et je commence à m'impatienter un peu. J'en ai marre de me laisser vivre comme ça. J'ai envie d'être portée par un... C'est tellement agréable, en fait. C'est tellement...
De se plonger dans un travail comme ça.
Ah ouais, c'est vraiment un plaisir tellement immense.
Pour nous aussi, donc ne tardez pas trop, Mona Chollet, à trouver l'inspiration.
J'essaierai, merci.
Merci beaucoup d'être venu dans cette
émission. Merci beaucoup à vous.
Merci aussi à toute mon équipe, et Étienne Bertin à la réalisation, Rémi Sistiaga à la technique, Marie-Laurent Chéry, Raphaël Grimm-Marquis, mes deux petites stagiaires, Anouk Valverde et Maëlan Loaec. On se retrouve demain à 18h pour la dernière du Mac de l'été, avec moi en tout cas, et notre invité, ce sera Lou Doyon. Très très belle fin de journée à vous sur France Inter.